8h46. Alors, depuis vendredi, les événements se sont succédés en Catalogne avec la déclaration d'indépendance, la réponse de Madrid, manifestation des pro-indépendantistes et la contre-manifestation hier, toujours à Barcelone, de gens qui sont contre l'indépendance. Et ce qu'on voit, en tout cas, dans les réactions, et c'est le journal Le Monde qui, dans un éditorial, disait clairement que les souverainistes catalans faisaient de la provocation et que Madrid avait raison d'avoir la ligne dure.
Ben, ça, c'est un point de vue. Je ne suis pas certain que je le partage. En tout cas, les choses
sont claires.
Non,
mais tu vois que l'Europe, là, on est du bord de Madrid, là.
Ah, c'est clair.
C'est le point de vue de l'Europe.
Ça, c'est la grande, grande faiblesse du mouvement de la, bon, de la République. C'est parce que maintenant, ils ont déclaré quand même qu'ils étaient une République indépendante de Catalogne. Le problème, c'est que personne ne reconnaît cette indépendance-là dans aucun pays, puis le Canada encore moins. On l'a vu par la déclaration de Justin Trudeau. Mais les choses sont claires, puis en même temps, elles sont rendues dans une impasse. Et c'est très difficile de voir comment on va sortir de cette impasse-là. Dans le fond, je réfléchissais à ça, je me disais, OK, la République indépendante déclarée par Puigdemont, parfait. En même temps, là, la mise sous tutelle de la Catalogne, avec l'article 155, ça veut dire qu'éventuellement, ce gouvernement-là est illégitime aux yeux de Madrid. Donc, le vrai combat, il va se passer sur deux fronts. Celui de la population, puis on a vu hier la réaction des gens qui sont en faveur de l'Espagne. C'était pas une manifestation banale, c'était une manifestation où il y avait des centaines de milliers de personnes, au moins aussi importantes que celles qui étaient en faveur de l'indépendance, d'une part. Puis l'autre aspect qui va être majeur, ça va être qui fait applique la tutelle de Madrid. Autrement dit, c'est la police. Ultimement, là, il faut qu'il y ait des gens...
Changes le chef de police, d'abord, ça a été fait. Là.
Change le chef de police, puis tu dis, la police catalane, vous restez chez vous, c'est la police espagnole qui va entrer, puis qui va obliger, par exemple, elle peut arrêter l'ex-président ou le président catalan actuellement, puis l'exécutif, c'est clair, ça s'est passé même ce matin. Un député, un ministre qui est allé dans son bureau, puis il y a des gardes armés qui lui ont remis un papier disant, mais vous êtes illégal quand vous venez ici, vous n'avez plus le droit, puis on va procéder si vous maintenez votre présence à l'intérieur du Parlement. Donc, on est rendu à un point. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'on sait, c'est que le 21 décembre, il y a ce vote qui est imposé par Madrid. Mais en même temps, il n'y aura pas de solution réelle liée à ce vote-là, parce que ce qu'on peut prévoir déjà, c'est que, évidemment, ceux en faveur de l'Espagne vont aller voter majoritairement pour mettre dehors les députés indépendantistes. Et là, que feront les indépendantistes? Est-ce qu'ils vont boycotter ce vote-là comme leur référendum a été littéralement assassiné par Madrid? Est-ce que ça va être leur réponse ou est-ce qu'ils vont y aller? Et s'ils y vont, admettons que l'élection finit par être acceptée par l'ensemble des Catalans, là, c'est là que les atteignants s'atteignirent, puis qu'on va voir, mais où est la majorité? Est-ce qu'il y a plus de gens qui sont en faveur de l'indépendance et qui sont prêts à élire de nouveau un gouvernement indépendantiste, ou est-ce qu'il y a plus de gens qui sont en faveur du fédéralisme espagnol et qui vont voter pour les exclure?
Mario? Mm-hmm.
Mais oui, sauf que dans cette élection-là, le gouvernement de Madrid dit que les partis indépendantistes n'auraient pas le droit de se présenter. Ce serait interdit de parler de ça.
Ouais, mais là, ça, c'est
je sais pas comment tu peux faire ça, mais c'est ça la
position. Empêcher. Ben, en principe...
Mais c'est la position de Madrid, là, qu'un parti ou un candidat serait illégal s'il avançait sur ce terrain-là.
Mais on sait que Madrid peut pas aller trop loin du côté de la répression. Par exemple, le contrôle de la presse ou l'imposition de la force policière. Là, ça risquerait de créer un changement dans l'attitude des autres pays européens si Madrid allait dans le même type de violence.
Ouais, mais moi je veux en parler de l'attitude des autres pays européens parce que c'est comme un peu surréaliste, là. C'est-à-dire que moi, je comprends que les pays, un peu comme Justin Trudeau, quand il dit la phrase qu'il a une préférence pour l'Espagne unie, je comprends ça. Je comprends que ce soit la position du gouvernement canadien. Je comprends que le processus, le référendum puis la déclaration unilatérale où une grosse partie des députés n'étaient pas là, je comprends que les pays soient prudents avant d'accepter ça. Ce que je comprends pas, c'est que les autres pays ne mettent aucune pression. T'sais, dans les déclarations de Justin Trudeau, je pense qu'on devrait quand même mettre une forte pression sur Madrid, sur le gouvernement espagnol pour dire il faut régler ça, il faut T'sais, il faut s'asseoir, il faut montrer de l'ouverture. T'sais, normalement, tu devrais constater la crise politique et mettre de la pression sur le plus fort pour, le restreindre de ses tentations trop autoritaristes, là. Et c'est là que, je veux dire, la réaction de Justin Trudeau, la réaction des pays européens, essentiellement ce que ça dit à Rajoy, c'est fait n'importe quoi, là. Fait n'importe quoi, écrase-les, prends le contrôle. Ils ont pris le contrôle d'une TV, quand même, prends le contrôle de leurs médias, prends le contrôle. Tu sais, c'est comme un encouragement quasiment à l'abus de pouvoir, et ça, moi, ça me rend là vraiment, vraiment mal à l'aise. Ben, qu'est-ce qui va arriver, dans le fond? Il y a beaucoup de questions aujourd'hui, là. Juste comment ça va se passer au cours des prochains jours. La police, les 200 000 fonctionnaires, avec tous ces gens qui travaillaient pour, on va dire, le gouvernement catalan, tous ces gens dont le patron était la Generalitat. À partir de maintenant, qu'est-ce qu'ils vont... À qui ils vont se rapporter, là? Qu'est-ce qu'ils vont avoir comme autorité? Est-ce qu'ils vont accepter l'autorité de Madrid? Est-ce qu'ils vont accepter de jouer dans le jeu de Madrid? Est-ce qu'ils vont accepter les ordres de Madrid? Entre autres, la police catalane, les pompiers catalans aussi, là, qui, eux, étaient parmi les plus nationalistes.
C'est un gouvernement élu qui est contre l'indépendance.
Ah, mais là, s'il y avait une autre élection, c'est une autre affaire, là. Mais je parle présentement, de cette semaine. Cette semaine où Madrid...
Parce que l'élection, c'est quoi? C'est le 21 décembre?
21 décembre, oui.
Ouais. Mais là, pour l'instant, ils se font demander de respecter complètement l'autorité du gouvernement de Madrid.
Je lisais que les fonctionnaires étaient payés déjà par Madrid, alors qu'ils l'étaient auparavant par le gouvernement catalan. Il y a aussi beaucoup de pression des milieux d'affaires, tu sais, le nombre de sièges sociaux qui, en principe, quittent. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà connu ici au moment de, en 1980, au moment du premier référendum, l'affaire de la Brinks et puis les banques qui menacent de partir. Et puis, tu sais, il y a toujours des pressions du milieu financier. Dans bien des cas, par conviction personnelle, mais aussi souvent juste parce que l'instabilité, paraît-il, est meurtrière de l'économie.
Ben, enfin, surtout que ce qu'ils disent, c'est que dans l'état actuel des relations avec l'Europe, si vraiment une Catalogne indépendante serait sortie de la zone euro, fait que tout ce qui est bancaire, ils disent, nous autres, on veut s'en aller sur un territoire où on est sûr qu'on va rester dans la zone euro parce qu'on fonctionne en euro. Est-ce que c'est un prétexte? Est-ce que c'est réel, là? Mais c'est une crise qui est pas...
En fait, il y en a une seule solution que je voyais évoquée par certains, c'est qu'il y ait une négociation entre, disons, Madrid et Barcelone et que l'Espagne redéfinisse une sorte de nouveau système plus proche d'une fédération que de ce système dans lequel ils sont.
Mais si toi, c'était Madrid, là, tu veux pas attendre de voir quel est l'appui réel à l'indépendance, parce que, tu sais... Avant les événements, là, avant le référendum, là, il y avait une majorité
contre l'indépendance. Moi, je pense ça.
Ouais, mais
moi, si je suis Madrid, là, je vais attendre les résultats des élections. Donnez-moi un gouvernement anti-indépendance, puis là, on peut discuter.
Mais moi, si je suis un indépendantiste catalan, je suis pas sûr que je vais pas essayer de boycotter cette élection-là, justement pour dire, regardez, elle est absolument pas fiable. Mais c'est sûr que Madrid considérera le résultat de cette
élection comme étant fiable.
Comme le gouvernement catalan a fait la même chose avec le référendum. On est vraiment ici, et le problème, c'est qu'on voit nulle part où il y a discussion entre les partis.
Mais c'est là que la communauté internationale pourrait mettre une pression. La position de Justin Trudeau, c'est vendredi, je pense, c'était un peu surréaliste. C'était comme si ça n'existait pas. C'est comme si, la façon dont il parlait, c'est comme si c'était rien passé en Catalogne, comme s'il n'y a pas eu de référendum, comme s'il n'y a pas eu de répression dans les rues. Il exprime tout bonnement une préférence pour une Espagne unie. Puis le gouvernement Rajoy a tout son appui pour faire ce qu'il y a à faire, pour garder le pays uni, puis tout ça. Hey, attends un petit peu, là. C'est en rupture. L'idéaliste Justin Trudeau est en rupture avec plusieurs des principes qu'il est supposé défendre, là.
On s'arrête là-dessus. On vous souhaite une belle journée. Allez vous déguiser pour l'Halloween et revenez demain. Il est 8h55, la métropolitaine.